Ainsi, Paul se convertit sur le chemin de Damas. Et vous savez que notre travail d'interprétation vise toujours non pas à nous laisser spectateurs d'un événement passé, mais d'essayer de comprendre en quoi cela peut nous concerner nous-mêmes. Or, cette conversion est intéressante car nous sommes nous aussi invités à nous convertir. C'est ce qui est dit sans cesse dans l'Évangile. C'est le début de la prédication de Jean-Baptiste au début de l'Évangile quand il dit « Convertissez-vous ! » Et c'est également cette prédication que reprendra Jésus dans le début de son ministère. Et donc, puisque nous sommes appelés à nous convertir, voyons comment Paul s'est converti et pour quelles raisons et de quelle manière. Ce que l'on sait, c'est que Paul, donc, en effet, persécutait l'Église au départ, et voilà que tout à coup, sur ce chemin de Damas, il devient l'un des principaux constructeurs de l'Église. Alors déjà, ça complique un peu les choses, parce que j'imagine que pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des persécuteurs de l'Église, mais néanmoins, nous pouvons nous identifier au moins en partie à cela, parce que évidemment que notre cœur n'est pas à 100% converti à Dieu ou à ce qu'il représente, c'est-à-dire au bien, à l'amour, au pardon, à la tendresse et à la générosité, et qu'il existe évidemment en nous tous une part qui n'est pas convertie, c'est-à-dire une part de violence, de haine, d'égoïsme, de jalousie et tout cela. Et c'est donc cette part-là que nous devons essayer de convertir, et c'est cette part-là que nous devons essayer de ramener dans le bon chemin, c'est-à-dire de ramener à Dieu. Et je pense en effet que chaque fois que nous agissons, je dirais sans être mus par un idéal supérieur, ou que nous agissons sans penser à Dieu, ou par notre seul égoïsme, eh bien nous blessons d'une certaine manière, nous persécutons l'Église, c'est-à-dire nous blessons le royaume de Dieu, et donc il y a toujours un petit Paul persécuteur en nous. Alors donc voici la question, comment convertir cette part de nous-mêmes à Dieu? Alors dans ce récit, qu'est-ce qui convertit Paul? C'est assez simple en fait, c'est un dialogue assez facile, qui est le suivant. Paul est sur le chemin de Damas, il entend une voix venant du ciel qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul répond « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix dit « Je suis Jésus que tu persécutes » et pof, Paul se convertit. Avouez que c'est assez extraordinaire et pour moi incompréhensible. Parce que je trouve ce dialogue totalement indigent, pour tout vous dire. Je ne vois pas très bien l'intérêt même de ce dialogue. On a l'impression d'une communication téléphonique qui passe mal. Allô, qui est à l'appareil? Ah, c'est toi, bon, très bien, d'accord, eh ben, ça va, je me convertis, n'insiste pas. Je ne vois pas du tout en quoi ce dialogue a pu convertir Paul, et je ne vois pas en quoi il peut m'aider, moi, à me convertir. Et donc, j'ai supposé que ce dialogue était certainement plus profond qu'il n'en avait l'air, mais je dois vous avouer une chose, j'ai travaillé des heures sur ce dialogue en ne comprenant pas où pouvait se trouver l'intérêt de la chose. J'ai vraiment tout cherché, hein, j'ai tout cherché, les mots, les références, tout ça, vraiment rien. Ce dialogue est indigent et je ne vois absolument pas la profondeur de l'affaire. Alors j'ai continué à chercher et j'ai découvert que ce récit de la conversion de Paul se trouve bizarrement trois fois dans le livre des Actes des Apôtres. Une fois au chapitre 9, ce que nous avons lu, une fois au chapitre 22, une autre fois au chapitre 26 et une quatrième fois, en fait, dans une lettre de Paul. Alors j'ai cherché, je les ai mis les uns à côté des autres, j'ai cherché les variantes et j'ai découvert une chose qui est, je crois, sans fausse modestie, que je suis le premier à l'avoir découvert depuis 2000 ans. Donc, ce que je vous dis est un scoop absolu, mais comme vous n'avez pas confiance en moi, vous allez supposer que si je suis le seul à l'avoir pensé, c'est que ça doit être faux. Mais vous allez voir, j'espère vous convaincre. La chose, c'est la suivante, c'est que dans le troisième récit, au chapitre 26, verset 14, il y a une petite précision. C'est que Paul raconte ce récit et il dit « J'entendis une voix me disant » ça c'est comme tout le monde, Et il rajoute en hébreu, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu, qui es-tu Seigneur, etc. Alors je me suis dit, pourquoi à ce moment-là, Paul précise-t-il que ce dialogue a eu lieu en hébreu? Alors comme je suis d'un naturel plutôt discipliné et travailleur, je me suis dit, bon ben, puisqu'il nous dit que ça a été dit en hébreu, je vais essayer de voir qu'est-ce qui a été dit en hébreu. Alors j'ai un Nouveau Testament qui a été traduit en hébreu au XIXe siècle par le pasteur Delitzsch, qui essayait de convertir les Juifs. Donc il a traduit tout le Nouveau Testament en hébreu, et je regarde qu'est-ce qui a été dit entre Paul et le Christ dans ce moment de la conversion. Et là, je lis la phrase en hébreu qui est la chose suivante. « Ani Yeshua Asher Atarodef » C'est de l'hébreu. Et là, je découvre quelque chose avec les trois mots d'hébreu que je connais. C'est que cette phrase qui convertit Paul, « Je suis Jésus que tu persécutes », en hébreu veut dire tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'elle est à double sens. En effet, le nom de Jésus, Yeshua, ça veut dire le salut de Dieu en quelque sorte. Et puis, Radaf, qui est traduit d'habitude par persécuter, je suis Jésus que tu persécutes. Radaf en hébreu veut dire persécuter, mais ça veut dire aussi poursuivre, bon, d'accord, physiquement, mais aussi moralement, si vous voulez. Comme on poursuit un but, comme on poursuit un idéal, ça veut dire rechercher, mais ça veut dire aussi rechercher une valeur en quelque sorte. Et c'est ce verbe que l'on trouve sans arrêt dans l'Ancien Testament, comme en Ésaïe 51, quand il dit « Écoutez-moi, vous qui recherchez la justice ». Donc il recherche la justice, il ne la persécute pas. Et au psaume 38, où le psalmiste dit « Moi, je poursuis la paix ». Ou au psaume 34, encore verset 15, où le psalmiste dit « Recherchez et poursuivez la paix ». Et donc voilà ce que j'ai découvert, c'est que cette phrase qui convertit Paul, ce n'est pas Jésus qui dit « Tu sais, c'est moi, Jesus ». C'est une voix qui lui dit « Je suis le salut que tu recherches. Je suis le salut de Dieu dont tu es en quête, le salut que tu recherches fortement ». Et en effet, je crois qu'il comprend que ce Jésus, ou sa prédication, peu importe, ce Jésus, est ce qui permet d'accomplir pour lui le but de son existence. Parce qu'on le voit dans ses lettres, Paul était un obsédé du salut. Il cherchait profondément le salut, il cherchait toute sa vie, ça a été une quête de savoir qu'est-ce qui peut le sauver. Et donc ces lettres vont sans arrêt essayer d'expliquer qu'on est sauvé, mais c'est peut-être pas par les œuvres, mais qu'on est sauvé par la grâce, ou qu'on est sauvé par la foi, qu'on n'est pas sauvé par l'obéissance à une loi, ou des choses comme ça. Et donc Paul a toujours été un obsédé du salut, un obsédé de quelque chose qui pourrait donner du sens à sa vie, un obsédé dans la quête de ce qui peut justifier une existence. Alors au départ, comme il voulait bien faire les choses, eh bien il s'est engagé entièrement dans l'intégrisme. Et donc il était là à persécuter ceux qui n'étaient pas dans la juste loi, dans la juste doctrine. Et tout à coup, il va découvrir la grâce. Et il va dire, ben, il va découvrir que ce salut qu'il recherchait activement par l'action, par la violence, par la brutalité, eh bien que ce salut, ce n'est pas à lui à le gagner par sa force, mais qui lui est offert et qui lui est donné par Jésus. Alors cette quête du salut, elle est intéressante, mais il faut l'exprimer un peu autrement peut-être, parce que aujourd'hui, comment peut-on comprendre la signification de ce qui peut nous sauver? Chercher le salut, c'est peut-être dans notre vie chercher ce qui peut nous permettre de dépasser notre finitude, c'est-à-dire que notre vie, si l'on regarde sa dimension purement matérielle, est finalement condamnée à naître, à grandir, à vieillir et à mourir, et quoi? Et quoi d'autre? Pourquoi tout cela? Et donc le salut, c'est qu'est-ce qui finalement permet à ma vie d'aboutir à autre chose, et de dire ma vie n'est pas juste une agitation de molécules et de cellules animales qui naissent et qui meurent dans l'indifférence totale du cosmos qui l'entoure. Le salut, c'est peut-être aussi d'essayer de savoir qu'est-ce qui peut me permettre, c'est plus existentiel, de surmonter la question de mon échec personnel. Parce que oui, la tendance serait de dire ce qui va donner sens à ma vie, c'est ce que je réalise, parce que j'aurais fait des grandes choses, parce que j'aurais été extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà, frères et sœurs, à part peut-être certains d'entre vous, pour la plupart dont moi, est-ce que vraiment ma vie sera sauvée par les grandes œuvres extraordinaires que j'aurais faites? Réponse, probablement pas. Le salut, c'est aussi d'essayer de savoir qu'est-ce qui peut me sortir du piège, vous disais-je, de la maladie et de la mort. Qu'est-ce qui peut me donner d'avoir une vie harmonieuse, une vie qui me permette d'être en harmonie avec tous mes désirs et de trouver la paix et l'accomplissement, qui me permet de dépasser les épreuves, qui me permet d'être plus fort que la mort, qui me permet d'être au-dessus du sentiment d'insatisfaction, du sentiment d'échec que peut me donner la vie. Bref, oui, c'est ça, c'est de rechercher quelque chose qui dépasse ma vie pour me sauver. Alors le problème, effectivement, c'est de comprendre que ce Dieu par Jésus-Christ, alors soit parce que vous êtes croyant et que vous croyez en Dieu, soit parce que Jésus-Christ est un message, c'est un évangile, c'est une conception de la vie, des relations entre les hommes, de la société. Et c'est donc de comprendre que Jésus-Christ, ou cette prédication du Christ, est une réponse possible à cette quête de notre vie, et que c'est ce Jésus qui peut nous sauver, qui peut accomplir notre existence. Et c'est ça la conversion. La conversion, c'est de comprendre ou de vouloir croire que ce Jésus ou que ce message de l'Évangile est une réponse extraordinaire à cette question de notre vie. Alors Paul, donc, était dans cette quête effrénée, vous disais-je, d'un salut, qui pensait essayer de l'accomplir par lui-même, et faute d'arriver par lui-même à l'accomplir, se disait « je vais imposer une sorte de loi extérieure que je vais imposer au monde, et ça donnera du sens à ma vie ». Paul comprend que, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, et que le salut ne se trouve pas dans l'acharnement, de l'intégrisme, mais que le salut se trouve dans ce que dit le Christ, c'est-à-dire dans la douceur, dans l'humilité, dans la fraternité, dans la paix et dans la grâce. Vous voyez, Paul comprend cela, et en fait, ce dialogue est donc extrêmement profond. C'est un dialogue très fort, et je pense que ça a été une vraie révolution, effectivement, pour Paul à ce moment-là, et qui va faire basculer sa vie. Cela dit, la question n'est pas entièrement résolue pour moi parce que je me dis, mais finalement, d'accord, donc Paul comprend cela, que Jésus, l'Évangile, est la réponse à sa quête du salut, mais comment en est-il arrivé là? Et c'est là où il faut ensuite remonter un peu et se dire, mais est-ce que le reste du dialogue qui précède n'est pas le chemin aussi qu'il faut suivre pour en arriver à comprendre qu'il y a dans le Christ cette réponse à la question de notre salut? Et dans le dialogue qui précède, qui est assez court, mais qui, à mon avis, est absolument fondamental, on trouve les deux clés qui permettent d'accéder à cette conversion. Je vous disais, ce dialogue est fondamental parce que, je vous ai dit, ce texte de la conversion de Paul se trouve 4 fois dans le Nouveau Testament, et tous les détails changent. Parfois il y a de la lumière, parfois il n'y en a pas, parfois les uns entendent la voix et pas les autres. Enfin, les détails de l'événement sont extrêmement flous et mouvants. La seule chose qui reste constant à la virgule près, c'est le dialogue lui-même. Et donc je maintiens que c'est dans ce dialogue, dans ces mots du dialogue, que se trouve la clé, je dirais, de notre conversion. Et je reprends donc ce dialogue. La première chose que la voix du ciel dit à Paul et qui va le faire basculer, c'est « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et donc voilà le mot, à mon avis, qui le détonateur, je dirais, de cet événement, c'est « Pourquoi ? » ?»« Pourquoi ?» Et ce « Pourquoi ?», on le trouve très souvent dans la prédication du Christ. Jésus n'était pas tellement un donneur de leçons, mais il était plutôt un interrogateur. Et sans arrêt, quand il voit quelqu'un, il dit « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi ?» C'est-à-dire qu'il l'invite à réfléchir pourquoi on agit comme on le fait dans sa vie. Et ça, je crois que c'est la base de tout. C'est-à-dire de ne pas vivre sans savoir où ça nous mène, en faisant un peu à l'instinct, au jour le jour, ce que l'on sent, ce qui peut être sympathique si on a un bon fond. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est d'avoir effectivement un pourquoi, c'est-à-dire un pour, trait d'union, quoi, c'est-à-dire où vas-tu, que fais-tu, dans quel but, dans quelle direction vas-tu t'orienter dans ta vie. Et ce pourquoi, c'est ce qui permet de nous, je dirais, de nous arracher de la force de l'habitude. La force de l'habitude est une force dangereuse, sauf si on a d'excellentes habitudes, mais même la force de l'habitude, l'habitude est une ornière, si vous voulez. Et je pense qu'il est bon de se poser la question, de temps en temps, de dire « Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ?» Et Paul, finalement, ne savait pas pourquoi il agissait comme ça. Il était pris dans un mouvement, il ne s'en rendait pas compte. Et il agissait non pas en recherchant l'œuvre de Dieu ou la présence de Dieu, mais il agissait pour obéir à une autorité humaine. Vous savez, comme ces soldats SS pendant la guerre qui disaient « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il dit ben, « Parce qu'on m'en a donné l'ordre. » Eh bien, ce n'est pas une raison. Pourquoi fais-tu ça ? Pas simplement parce que c'est l'habitude, parce que tu as toujours fait comme ça, parce que c'est la tradition. La question, pourquoi ? Et le Christ, je vous ai dit, je crois que c'est justement la religion du pourquoi. Il incite chacun à réfléchir sur sa vie. Et l'Évangile n'est pas une religion d'autorité, mais c'est une religion qui fait réfléchir. Et même lorsque par hasard on a l'impression qu'il donne un commandement, son commandement est en général inapplicable. Il dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Idiot, inapplicable, absurde. Mais la question c'est, pourquoi donnes-tu ou ne donnes-tu pas ? Quand un garde le frappe sur la joue, au lieu de tendre bêtement l'autre joue, comme il l'a enseigné lui-même d'ailleurs, il dit au garde, « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai bien agi, pourquoi me frappes-tu ? Et si j'ai fait de mal, dis ce que j'ai fait de mal. » Et sans arrêt, il dit cela. Et il dit aussi à un homme qui transgressait le sabbat dans son champ, il dit « Ô homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Mais si tu ne le sais pas, tu transgresses la loi et tu es maudit. » Parce qu'il travaillait dans son champ le jour du sabbat. Donc il lui dit « Si tu sais pourquoi, si tu as une bonne raison de le faire, tout va bien. » Et l'apôtre Paul lui-même dira encore cette phrase extraordinaire dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, où il dit, vous savez, l'important c'est de... On lui demande, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande, de ne pas manger de viande, de faire ceci, de faire cela. Il dit, écoutez, moi, j'en sais rien de vos histoires, ne m'intéresse pas. Mais il dit simplement, quand vous faites une chose, soyez-en pleinement convaincus. Et il dit, tout ce qui est fait par la foi ou par la conviction, ça c'est bien. Et tout ce qui est fait sans conviction, c'est du péché. Vous voyez, il n'est pas dans une loi morale avec une transgression ou pas d'une règle extérieure, mais il dit l'important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc oui, tout ce qui est fait sans conviction ou sans foi, puisque la foi est une conviction, est péché. Alors à partir de cette question du pourquoi, c'est-à-dire dans quel but, dans quelle direction fais-tu les choses, quel est ton idéal, ton objectif, ta visée, c'est-à-dire quelle est ta foi, en quelque sorte. Et donc Paul va répondre à cette question du pourquoi, il va répondre par une autre question qui est « Qui es-tu, Seigneur ?» Là aussi c'est curieux parce que Paul répond à une question par une autre question. Et question qui semble a priori n'avoir aucun rapport, ce qui est assez étonnant. On lui dit « Pourquoi agis-tu comme ça ?» Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» En fait, je pense que cette question n'est pas du tout ce que l'on imagine. C'est-à-dire que Paul savait très bien qui lui parlait. En effet, Paul n'était pas un débutant. Il avait lu la Bible, c'était un bon théologien. Et il sait que quand il y a une voix qui descend du ciel et qui vous parle, c'est Dieu qui parle. Alors, il n'y a pas de doute pour un homme de la Bible. Je dirais, dans la Bible, personne d'autre que Dieu n'a jamais parlé du ciel, avec des grandes lumières, avec des choses comme ça. Donc, Paul savait très bien que c'était Dieu qui parlait. Et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'il lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est-à-dire qu'il lui dit le nom même de Dieu. Donc, il savait que c'était Dieu. Autrement dit, cette question n'était pas juste de dire « Dis donc, t'es qui, toi ?» Mais c'est d'essayer de se demander... Qui est Dieu ? c'est-à-dire qu'il s'interroge sur la nature même de Dieu. Et ça, je pense que c'est une bonne question, parce que pour répondre à cette question du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi agit-on ainsi, il faut s'interroger sur la question de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ultime dans mon existence ? Qu'est-ce qui dans ma vie est la chose la plus essentielle ? Qu'est-ce qui est vital ? Qu'est-ce qui est, j'allais dire, non négociable ? Qu'est-ce qui est question de vie et de mort pour moi et pour l'humanité ? Quel est le but ultime de toute vie, de mon existence ? Et c'est ce que les croyants appellent Dieu et que les incroyants appellent autrement, peu importe. Mais si on est dans ce système croyant, c'est la question de savoir qui est Dieu, c'est-à-dire quel est le but de ma vie ? Qu'est-ce que je cherche à mettre dans ma vie ? Qu'est-ce qui est l'essentiel ? Qu'est-ce qui est plus important que tout ? Plus important que la santé ou la maladie, plus important que la réussite ou l'échec, plus important que le fait d'être riche ou pauvre, plus important que tout. Qu'est-ce qui est pour moi ce pourquoi je suis prêt à consacrer toute ma vie ? Eh bien, c'est ça, effectivement, c'est ce que nous cherchons, ce que nous voulons mettre, ce qui est l'essentiel. Et c'est Dieu est finalement la finalité de nos actes. Et c'est, je vous disais, la foi et la visée. La question, c'est dans toute votre vie, qu'est-ce que vous visez ? Et Paul a une bonne réponse, en effet. Quand on lui dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?», il comprend que le « pourquoi » n'est pas une question de cause, mais une question de conséquence. C'est-à-dire, dans quel but ? Qu'est-ce que tu cherches en faisant cela ? Et que le sens de notre vie ne réside pas dans les causes, dans les conditions de notre vie, mais dans le but, et que le but dépend de nous, parce que c'est ce à quoi nous nous attachons. Et donc c'est pour ça, vous disais-je, que cette réponse de Paul, « Qui es-tu, Seigneur ?» est la meilleure réponse possible à la première question qui lui était posée, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» En effet, le « pourquoi », c'est le sens de sa vie, et le « deux », c'est le but, en quelque sorte. Et donc vous voyez qu'il y a là tout un travail, j'allais dire spirituel et intellectuel, dans l'esprit de Paul, qui est sans doute résumé dans ces trois phrases, où effectivement une voix lui dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Paul dit « Qui es-tu, Seigneur ?» et il comprend que c'est ce Jésus qui est la source du salut vers laquelle il est en quête, et à ce moment-là, il va changer sa vie. Parce que oui, ce qui reste à faire, c'est de faire la liaison entre les deux, et de dire que Jésus est bien ce salut qu'il recherche. Et la conversion, c'est peut-être cela, c'est de se dire finalement, eh bien, je crois que le message de l'Évangile, c'est ce que moi, je veux choisir comme but de mon existence. Et ça, c'est la grande démarche intellectuelle qui va mener Paul à la conversion, mais cette démarche, elle est à faire sans cesse, je dirais, pour chaque acte, pour chaque geste, parce qu'on n'est jamais converti une fois pour toutes. Et une fois que cela est fait, il reste encore la suite du dialogue que je ne voulais pas passer sous silence. Paul va ensuite, quand il aura compris cela, va dire encore ce qui est merveilleusement juste. Et il dit « Que ferai-je, Seigneur ? Que ferai-je, Seigneur ?» Et ça, c'est beau. Vous savez que la semaine dernière, nous avons fait les confirmations. On demande aux jeunes de choisir un verset biblique qui donne un petit peu le sens de leur foi à ce moment-là. Et il y a quelque temps, j'avais un jeune qui avait choisi ce verset-là, qui est rarement choisi. Son verset, c'était ça. « Que ferai-je, Seigneur ?» Et j'avais trouvé qu'il y a là quelque chose d'extrêmement beau, parce que, effectivement, c'est une façon d'aller dans le sens de l'engagement et de dire, c'est pas le tout d'avoir la foi, d'avoir des convictions, de dire « j'aime Dieu, j'aime ceci », etc. Mais « que ferai-je » C'est-à-dire l'action. Et ça, c'est le rôle de la relation à Dieu, de la réflexion, de l'écoute, c'est de mener à une action et de savoir ce que l'on va faire. Mais là, la réponse n'est pas simple, parce que ce « que ferai-je » là, il n'y a pas de réponse universelle. Et ça va être à chacun de trouver ce qu'il a à faire pour être fidèle à sa foi. Et c'est, je pense, le rôle de notre réflexion, de notre méditation, de notre prière aussi. Parce que la prière, ce n'est pas de réclamer à Dieu ceci et cela. La prière, c'est d'essayer de se mettre à l'écoute d'un appel et d'une vocation qui nous est donnée. Et la plus belle prière, c'est celle du petit Samuel, que le prêtre du temple lui enseigne, quand il lui dit, la prochaine fois, tu diras ça dans ta prière. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Et donc la prière n'est pas bombarder Dieu de demandes, mais c'est essayer d'écouter et c'est de lui dire, Seigneur, que ferai-je ? Et donc Paul comprend que Dieu l'envoie en mission, qu'il ne le laisse pas sur place, qu'il est invité à travailler dans la vigne du Seigneur, et que c'est ça le salut, en fait. C'est de choisir un bon objectif, un bon idéal, et de travailler pour cela. Et la conversion, voyez-vous, n'est peut-être pas tellement un changement d'état, mais c'est un questionnement, une dynamique qui ne nous laisse pas sur place, mais qui nous envoie en mission pour travailler pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour la paix, la justice, la fraternité et l'amour. Et c'est de se mettre au service d'une réalité dans laquelle nous croyons. Le Christ invite à mettre à son service, non pas personnellement, parce que le Christ n'est pas un gourou, mais de se mettre au service d'un idéal et d'un message qu'il a exprimé, qui est la paix, la douceur, le pardon, le service, l'humilité et l'amour, et que le salut que nous cherchons, nous ne le gagnerons pas par la force de nos bras, mais simplement c'est un salut qui nous est offert parce que même indignes, nous avons été déclarés dignes d'être serviteurs du Seigneur, donc nous sommes accueillis, acceptés, pardonnés et sauvés pour être des ouvriers du royaume. Là est le salut que nous cherchons. Là est la vie, la joie et la lumière. Amen.